Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Agnès Bonfillon.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats, d'opinions également à partir de 13h comme tous les jours. Vous avez la parole au 3210. N'hésitez pas si vous souhaitez réagir à l'actualité de ce vendredi 19 août. Et justement les titres du journal. Une voiture volée sur un parking désert en pleine nuit, un contrôle de police et un refus d'obtempérer à Vénissieux. Un homme est mort, le passager du véhicule, le conducteur lui est en état de mort cérébrale. La fin de la vigilance orange en Corse au lendemain d'un épisode très violent. L'île est encore sous le choc. 5 personnes sont mortes, dont une petite fille de 13 ans tuée par une chute d'arbre. La canicule a-t-elle tué davantage cette année? Au mois de juillet, les chiffres de la mortalité sont en hausse, mais nous étions aussi en pleine troisième vague de Covid. Je préfère démissionner, phénomène assez marquant en début d'année. Toutes les 4 minutes, un Français a dit adieu à son patron. Et la plupart du temps, pour quitter un CDI. Justement, cette grande démission, envisagez-vous de quitter votre emploi pour de nouveaux projets? Vous avez répondu non à 46%. Oui à 28%. La météo, bonjour Claire Delorme.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
On le disait, retour au calme en Corse.
En effet, ça y est, le ciel se dégage progressivement. Nous aurons quand même beaucoup de nuages et ponctuellement quelques averses. C'est très local, mais aussi là, c'est très classique. Partout ailleurs, eh bien, on a une nouvelle dégradation qui va concerner principalement le quart nord-ouest du pays. Partout ailleurs, davantage d'éclaircies, encore un peu de vent entre Corse et continent et une température moyenne de 25 degrés sur l'ensemble du pays pour cet après-midi.
RTL Midi.
Un mort et un blessé grave la nuit dernière à Vénissieux. Les deux hommes auraient été touchés par des tirs policiers après un refus d'obtempérer. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes à Lyon pour RTL. Tout a commencé, Frédéric, par le contrôle du véhicule.
Oui, intrigué par la présence de cette voiture sur ce parking désert de l'hypermarché Carrefour autour de minuit, les policiers ont rapidement confirmation qu'il s'agit d'un véhicule volé. Alors, à quatre, ils s'approchent, ils sont en uniforme identifiable. Mais le conducteur refuse le contrôle, recule, puis fonce sur un des fonctionnaires qui est percuté, projeté sur le capot. Et c'est là qu'il ouvre le feu à plusieurs reprises, suivi par un autre de ses collègues, explique Olivier Barberis du syndicat Alliance Police Nationale.
Nos collègues, pour sauver leur peau, ont été contraints en une fraction de seconde d'utiliser leur arme de service pour pouvoir essayer de ne pas mourir, tout simplement.
Ils étaient vraiment en danger?
Bien évidemment, on a quand même un collègue qui se retrouve sur le capot de cette voiture volée. Et qu'un autre collègue, parce que le collègue sur le capot est en train de se faire percuter et tombe au sol, voit que la voiture va lui rouler dessus, j'imagine. Il fallait qu'il fasse absolument quelque chose pour le sauver. Et bien évidemment, il a eu une fraction de seconde pour dire « il faut que je défende absolument la vie de mon collègue ». D'où les tirs.
Le policier touché par la voiture a été blessé aux jambes. Il est en garde à vue, interrogé par l'IGPN, la police des polices, c'est la procédure. Tout comme l'autre fonctionnaire qui a tiré une dizaine de coups de feu au total. Le passager de la voiture, âgé de 20 ans, a été tué. Le conducteur est dans un état de mort cérébrale. Tous deux étaient connus des services de police, l'un pour des faits de vol à main armée notamment.
Frédéric Perruche en direct de Lyon pour RTL. Le calme a beau être revenu dans le ciel corse, le choc, lui, reste immense et pour cause. Les voitures et mobil-hommes écrasés par des arbres, les bateaux fracassés, les plaies sont encore à vif. Et surtout, comment ne pas penser à ces 5 personnes mortes pendant cet épisode? Bonjour Valentin Boissé.
Bonjour Agnès, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial en Corse. La situation, on le disait, revient enfin à la normale. Valentin, l'alerte orange est levée.
Oui, effectivement. Après des pluies encore intenses en milieu de matinée, le ciel s'est enfin éclairci à l'heure où je vous parle. Sur les routes, il y a de nombreuses voitures pleines de valises car beaucoup de vacanciers ont dû ces dernières heures quitter en catafleur camping. Certains rentrent sur le continent. Ce midi, il y a encore près de 5000 foyers privés d'électricité et il va falloir continuer de s'affairer pour déblayer ces arbres qui ont chuté un peu partout, notamment autour de Sagone où une jeune fille de 13 ans a perdu la vie dans un bungalow. C'est un mécanicien en vacances qui a retrouvé son corps. Lionel, il était avec d'autres vacanciers à creuser dans la boue à la main pour tenter d'extraire des blessés à leur prise au piège.
On nous a appelé parce qu'il y avait une personne qui était coincée sous un arbre. Donc on l'a dégagé comme on a pu. Ça va, il était vivant. Mais quand on nous a appelé, parce que c'était juste derrière, donc on était là dans la boue et tout. Donc après, on a pris une petite fille, on a creusé à la main comme on pouvait pour dégager ses jambes. Bon, on était en train de faire la toile de tente et d'arbre. Et malheureusement, bah, la petite est décédée.
Vous avez ressenti quoi à ce moment-là ?
L'impuissance. L'impuissance, dire voilà, bah, on a beau être des êtres humains, on a beau avoir les voitures, tout confort, mais un coup de vent, bah, on n'a plus rien.
Et il n'y a pas que dans ce camping de Sagone qu'un drame a eu lieu au port de Girolata. Valentin Boisset, c'est un pêcheur qui a perdu la vie.
Absolument, il faut bien vous imaginer un endroit en temps normal idyllique, de l'eau turquoise, du sable fin. Aujourd'hui, c'est une sorte de cimetière de bateaux. Un marin a donc perdu la vie à cet endroit où de nombreux vacanciers avaient jeté l'ancre. Le petit port était alors présenté comme sécurisé, mais les vents ont finalement approché les 200 km/h. Paul y était avec sa famille. Désormais, il n'a plus de bateau.
On savait que le temps allait un petit peu se détériorer, donc on s'est abrité dans le port de Girolata, qui est censé être quand même à l'abri, et donc tous les bateaux étaient au mouillage, et puis ça a dégénéré, la tempête était bien plus importante que prévu. C'est vraiment un mur qui nous est tombé dessus, et les bateaux ont commencé à se détacher et puis à se cogner les uns dans les autres. En plus, il y avait la radio, donc on entendait tous les gens en train de demander de l'aide, etc. Donc ça a été... C'était un peu l'apocalypse.
Vous voulez dire la radio de...
En fait, la CB. En fait, tous les bateaux étaient en train de communiquer entre eux, en train de demander de l'aide à la capitainerie. Et donc, bah, pendant une heure, y a tous les bateaux qui se tapaient les uns dessus les autres. On voyait la houle qui arrivait, on se demandait vraiment ce qui allait se passer et comment ça allait terminer. Quoi.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient bloqués en mer, c'est ça?
Ah, bah, nous, on était tous dans nos bateaux. Et donc, en fait, tous les bateaux étaient en train de se rentrer les uns dans les autres. Donc, c'était vraiment, vraiment très impressionnant, quoi.
Il a fallu aller vous chercher, du coup,
ceux qui pouvaient, le maximum, les gens sont restés dans leur bateau à essayer de survivre et à attendre que de faire le dos, parce qu'en gros, même aller sur l'eau, c'était quasiment mission impossible. On voyait certains qui se sont jetés dans les canaux de survie et qui sont retournés, qui ont essayé de se laisser déporter vers le rivage. Et ceux qui sont mis dans leurs petites annexes, les annexes se retournaient et tout. Donc en fait, on ne pouvait rien faire quasiment. Quoi. Donc,
Vous étiez en vacances ici ?
Ouais.
J'imagine que c'est un peu fini là.
Hier, en gros, la première question, c'était de savoir où est-ce qu'on allait dormir hier soir. Et donc là, aujourd'hui, je pense qu'on va essayer de chacun retourner chez soi.
Quand on est dans cet état d'esprit, on n'a plus envie de rester en vacances ici. C'est un peu compliqué.
Bah après, le point aussi, quand on fait de la mer, on sait qu'à tout moment, en fait, il peut se passer quelque chose. Mais c'est l'évolution du climat, faut essayer de rester, de prendre la chose avec philosophie. Mais c'est vrai que hier, les gens, dans l'état d'esprit, n'était pas le même. Quoi. Tout le monde passe sous les bateaux, sont vraiment tous HS. Hein. Il y avait vraiment des traumatismes. Hier, c'était vraiment traumatisant, en tout cas. Franchement, par rapport à ce qui s'est passé, le bilan humain est quand même plutôt convenable.
Témoignage recueilli par Valentin Boisset, envoyé spécial en Corse pour RTL.
RTL Midi.
La canicule a-t-elle fait augmenter les chiffres de la mortalité ? Ces derniers sont en hausse en juillet, c'est un fait. Encore faut-il savoir exactement, Odile Pouget, à quoi ces décès supplémentaires sont attribués ?
Eh bien, pour l'instant, on ne le sait pas. Santé publique France, qui fait état d'un excès de mortalité de 20% au mois de juillet, sur 3 semaines, entre le 4 et le 24 juillet, précise qu'il s'agit là de décès toutes causes confondues. Il faut donc être très prudent, ne pas oublier notamment qu'on était à ce moment-là encore en pleine vague de Covid, avec plus de 1300 patients en réanimation, dont la moitié âgée de plus de 60 ans. Ce qui est sûr tout de même, c'est que les températures records du mois de juillet, la durée des vagues de chaleur, la première remontant à mi-juin, ont été particulièrement éprouvantes pour les organismes, ce qui s'est d'ailleurs traduit par une augmentation des passages aux urgences pour des cas d'hyperthermie, de déshydratation sévère et des hospitalisations pour des problèmes cardiovasculaires cellulaire respiratoire affectant surtout les plus de 75 ans. Un bilan spécifique concernant l'impact de ces vagues de chaleur sur la mortalité sera publié fin septembre. Le temps, bien sûr, d'analyser tous les certificats de décès.
Odile Pouget du service qualité de la vie de RTL. Sur les routes, les chiffres aussi ne sont pas bons. Le nombre de morts a augmenté de 12% au mois de juillet par rapport à l'année dernière. 354 personnes ont perdu la vie, selon la sécurité routière. C'est 38 décès de plus qu'en 2021. Et ce sont surtout les plus de 65 ans qui sont touchés par cette hausse. En Algérie, les incendies qui ont ravagé le nord-est du pays ces deux derniers jours sont enfin maîtrisés, selon les autorités. Le bilan est très lourd. 38 personnes sont mortes. Après la grande évasion, la grande démission en début d'année, toutes les 4 minutes, un Français a choisi de quitter son emploi. On revient sur ce phénomène dans un instant.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Agnès Bonfillon.
Il est midi 41 sur RTL. En début d'année, avant que n'éclate la guerre en Ukraine, les démissions se sont enchaînées de façon frénétique. Toutes les 4 minutes, un Français a quitté son emploi. Et ce sont surtout des gens en CDI hein, qui ont décidé de tourner une page. Une démission toutes les 4 minutes, c'est frappant, Martial Youn.
Oui, c'est frappant et c'est clairement lié à deux phénomènes, le Covid et la reprise économique de la fin de l'année dernière. Le Covid, parce qu'un certain nombre de salariés ont réfléchi pendant le confinement sur la place du travail dans leur vie, sur leurs conditions de travail aussi. Phénomène marquant pour certains métiers difficiles, puisque vous savez que 100 000 serveurs dans la restauration ne sont pas revenus, par exemple. Et puis la très forte croissance qu'on a connue l'an dernier après les confinements, une croissance à plus de 7%, souvenez-vous. Là, c'est un phénomène qu'on connaît mieux. On retrouve des niveaux qu'on avait connus en 2008 avant la crise des subprimes. Quand la croissance est forte, eh bien les salariés ont moins peur du chômage et ils démissionnent pour faire jouer la concurrence et obtenir des hausses de salaire. Alors c'est typiquement ce qu'on a connu au début de cette année. Un meilleur salaire, plus de jours de télétravail. Voilà ce que recherchaient les employés en claquant la porte. Autrement dit, le marché de l'emploi fait face à une telle pénurie de main-d'œuvre que le pouvoir est en train de revenir entre les mains des salariés. Et d'ailleurs, on l'a bien vu puisque 8 démissionnaires sur 10 avait retrouvé un emploi en quelques semaines.
Merci beaucoup Martial Youn, chef du service économie et sociale pour RTL. Pour prolonger cette analyse, nous accueillons Jean-Claude Delgène. Bonjour monsieur.
Bonjour madame, bonjour.
Président, fondateur du cabinet Technologia. C'est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques au travail. Vous êtes également l'auteur de l'ouvrage « Idées reçues sur le burn-out » aux éditions Le Cavalier Bleu. 520 000 démissions par trimestre à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022. On ne peut que parler de phénomène.
En fait, c'est pas inédit, hein. Comme l'a dit tout à fait avant Martial Youn, il y avait eu en fait en 2008 des chiffres à peu près, disons, identiques. Ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que avec le confinement, il y a eu une grande dysrythmie sociale, c'est-à-dire une désynchronisation des rythmes des individus avec les rythmes sociaux. Ce qui fait que les individus, se sont à la fois au premier temps reposés, puis après ils se sont interrogés sur leur travail, sur leur mode de vie. Certains, subissant trop leur travail, ont décidé d'aller vers autre chose. Certains, étant y compris trop prisonniers de la vie dans les grandes métropoles, ont décidé de partir en province. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de turbulences. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que y compris la fin du chômage de masse. On avait à peu près 3 millions de chômeurs depuis la fin des années 70, début des années 80, a fait que les salariés qui arbitraient entre sécurité de l'emploi pour des raisons alimentaires, eh bien, ont décidé aujourd'hui de retrouver une certaine liberté pour aller voir ailleurs. La vraie question, c'est pourquoi je subis mon travail, pourquoi j'accepte, en général, c'est pour des raisons alimentaires, pour des raisons de peur du changement, d'appréhension du chômage. Aujourd'hui, tous ces critères sont en train en fait, d'évoluer, ce qui redonne la main, comme ça a été dit tout à l'heure, aux salariés qui peuvent effectivement monnayer leurs compétences beaucoup plus facilement. Alors, il est vrai aussi que le retour de l'inflation pousse aussi à cela, parce que les gens sont bloqués. Souvent, ils ont été embauchés à des indices faibles dans les entreprises et ils ne peuvent pas vraiment augmenter leur salaire. Ça ne peut passer que par une mobilité externe. Et donc, très souvent, ils quittent l'entreprise. Enfin, dernier phénomène, le débauchage. Il y a aujourd'hui dans les entreprises en France des gens qui sont spécialisés pour aller chercher des gens compétents pour les amener à partir. Des chasseurs de tête. Et en fait, quand on voit les personnes qui quittent, très souvent, elles quittent, elles ont déjà un autre job. Voilà, donc ce qui favorise la mobilité. Enfin, dernier phénomène, la loi d'indemnisation des démissionnaires qui était mise en place en 2018. Bon, elle est très encadrée, cette loi. Elle ne peut être mise en œuvre que si on a au moins 5 ans d'activité et si on a un projet. Mais cela aussi, ça ouvre des perspectives aux gens qui veulent vraiment changer d'emploi. Et à terme, on aura entre 15 et 20 000 personnes qui vont en bénéficier. Donc, vous voyez, tous les facteurs sont réunis pour favoriser l'évolution vers la mobilité professionnelle. Et on ne peut que s'en réjouir.
Ce côté, même pas peur, je peux trouver du travail quand je veux. Est-ce que cela touche en particulier une classe d'âge ?
En général, si vous voulez, ce sont surtout des gens qui sont très formés et qui sont sur des postes en tension sur le marché du travail. Donc, quand vous êtes jeune, à peu près bien formé et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'attaches et que vous pouvez bouger, c'est vrai que vous pouvez être une cible pour les chasseurs de tête ou tout au moins, cela va vous permettre d'évoluer plus facilement. La question, c'est la qualification, en fait.
Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia. C'était passionnant de vous avoir dans RTL Midi. C'est officiel, Jean Castex est le nouveau président du conseil d'administration de l'agence de financement des infrastructures de transport de France. Ouf, l'ancien Premier ministre a été nommé par décret présidentiel. Et il n'est pas le seul parmi les membres de son gouvernement à être recasé avec l'appui d'Emmanuel Macron. Recasage, on peut dire ça comme ça, Marie Mollet.
En tout cas, c'est ce que dénoncent les oppositions. Un président de la République qui ferait des cadeaux à ses proches et ses compagnons de route en les nommant à des postes importants. Jacqueline Gourault au Conseil constitutionnel, Agnès Buzyn à la Cour des comptes et plus récemment Emmanuelle Wargon, ancienne ministre du Logement, battue sèchement aux législatives et nommée cet été à la Commission de la Régulation de l'Énergie, une autorité indépendante qui fixe notamment les tarifs réglementés de l'électricité. Mais comment croire à l'indépendance d'Emmanuel Wargon, accuse Jérôme Nury, député LR de l'Orne, qui a auditionné l'ex-ministre à l'Assemblée.
On n'a pas cherché à avoir quelqu'un qui avait un profil technique, on a cherché à recaser quelqu'un qui a tout simplement perdu les élections. Ce poste de la CRE, ce poste de président, il demande à avoir quelqu'un d'objectif à la tête de l'organisme. Je pense qu'on va affaiblir la fonction en mettant quelqu'un qui est politiquement très affiché auprès du pouvoir.
En août, les parlementaires s'étaient majoritairement prononcés contre cette nomination. Emmanuel Wargon avait tenté de se défendre en assurant que la politique était désormais derrière elle.
Marie Mollet du service politique de RTL, il est midi 48. Habituellement, il est déjà très conseillé de faire des mises à jour régulièrement sur son téléphone portable ou son ordinateur. Et bien là, encore plus que d'habitude, Sophie Jousselin, si on possède un produit Apple.
Oui, car le fabricant vient de prévenir, une faille de sécurité a été découverte dans le logiciel qui gère ces appareils. Ça signifie qu'il y a dans ce programme une malfaçon, un trou de souris en quelque sorte, par lequel des pirates peuvent s'introduire et prendre le contrôle des smartphones, tablettes et ordinateurs concernés. Alors selon la firme à la pomme, ce sont les iPhones à partir du 6, tous les iPads Pro, tous les autres iPads à partir de la 5e génération et les ordinateurs Mac. Donc, si vous possédez un de ces modèles, Apple vous incite fortement à le mettre à jour. Pour cela, vous allez dans les paramètres de votre appareil et cette mise à jour va boucher le trou de souris qui permet aux hackers de farfouiller dans votre appareil.
Des précisions signées Sophie Jousselin pour RTL. L'air phocéen ne convient pas à tout le monde. Après deux matchs décevants, l'OM pourrait se séparer d'Arek Milik avant la fin du mercato le 31 août, opération qui permettrait au club marseillais d'équilibrer ses comptes, quitte à se passer d'un grand joueur, Hugo Hamelin.
Oui, c'est tout le paradoxe. Arek Milik, c'est l'un des rares à avoir le talent pour faire briller furtivement Marseille en Ligue des Champions. Mais c'est aussi l'un des seuls qui peut renflouer un peu les caisses du club. Deuxième en fin de saison dernière, l'Olympique de Marseille chamboule tout cet été. Plus de 10 recrues, un changement de coach, d'entraîneur, de gardien, un nouveau directeur du football. L'OM, c'est l'instabilité permanente, mais ça ne choque même plus son nouveau capitaine. Oui, ça aussi, ça a changé. Valentin Rongier.
On doit s'adapter le plus vite possible. Et puis surtout, on fait confiance à la direction sur les choix qu'ils font. Ce que je sais, c'est qu'on a perdu des joueurs de qualité, mais qu'on recrute des joueurs de qualité aussi. Donc je pense que ça s'équilibre. Et puis le président l'a dit, chaque joueur est vendable. Donc c'est pas seulement son cas à lui, c'est le cas de tout le monde.
Tous vendables, mais pour le moment tous présents. Un effectif marseillais XXL pour le plus grand malheur de l'actionnaire principal, Franck McCourt, mais pour le plus grand plaisir des fadas du Vélodrome qui affichera encore complet demain soir pour la réception du FC Nantes.
Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. Et la troisième journée débute dès ce soir avec OL 3. Un match à suivre en direct dans RTL Foot avec les grands débuts de Karine Galli qui sera tout au long de la saison autour d'Éric Silvestro et Xavier Domergue les vendredis et samedis. Soir. Nous avons beaucoup parlé des agriculteurs confrontés au problème de la sécheresse. Depuis ce matin, Patrick Hisson, bonjour à vous.
Bonjour Agnès.
Vous avez été en fil rouge sur le marché d'Aussonne, en Haute-Garonne. Vous nous avez fait vivre très concrètement, Patrick, les conséquences de la météo pour un producteur. Et on l'a entendu, le résultat est malgré tout sur l'étal.
Oui, des légumes et des fruits de qualité malgré les restrictions d'arrosage qui se poursuivent. Alors, il y a un peu moins de production et des légumes parfois un petit peu plus petits, mais les clients, tous servis en circuit court, sont des habitués et ils sont ravis comme Marie-Claire ce matin sur le marché d'Aussonne.
Bon, c'est vrai qu'ici, on a des bons légumes et des bons fruits maintenant, parce qu'ils ont leur jardin à Aussonne.
Elle est sympa, Christine ?
Très sympa, oui. C'est ma copine.
Voilà, et la productrice Christine Roncato est d'autant plus appréciée qu'elle n'a pas augmenté les prix cette année, malgré la hausse de 30% des charges de l'exploitation.
On s'est dit que les gens ils étaient impactés de tous les côtés avec toutes les augmentations de la vie et que si en plus ils ne pouvaient pas manger correctement, c'était pas normal. En espérant que l'année prochaine, ça ne continue pas à augmenter, sinon on sera obligés nous aussi de fonctionner avec une petite augmentation pour pouvoir continuer à vivre correctement.
Pas de hausse donc des prix, celui des melons, des tomates, des pastèques ou encore d'une spécialité de la maison, les aubergines blanches. Un légume très tendre et très sucré à déguster à la petite cuillère, presque comme un dessert.
Et vous nous en direz des nouvelles, je crois que vous allez faire l'expérience ce soir. Patrick, ils sont en direct pour RTL, on dit tout aux auditeurs. Les mains pleines d'or rouge, notre journaliste Antoine Cavalleroux, panier à la main, est devenu safranier le temps d'une journée. Direction les champs du Quercy dans quelques secondes.
RTL Midi. RTL en immersion.
Et oui, tout l'été, les journalistes de la rédaction s'essayent à un métier le temps d'une journée. Ils deviennent pilotes de ligne, commis de cuisine ou encore bergers de haute montagne. Antoine Cavalleroux, vous avez décidé de cultiver le safran, de devenir donc safranier. Et pour cela, vous vous êtes rendu dans une région où il est particulièrement réputé, le Quercy. Là-bas, on peut produire jusqu'à 10 kilos de cet or rouge par an. Et vous êtes allé dans le petit village de Calvignac, en vallée du Lot. Vous êtes en route pour une safranière.
Absolument, je suis dans le bolide, la magnifique camionnette blanche de
Didier Bure. Je suis président de l'association des producteurs de safran du Quercy.
Après quelques kilomètres à travers cette belle campagne lotoise,
voilà, on arrive.
Voilà la fameuse safranière, là où pousse le safran.
Même avec l'herbe, on voit très bien les planches de safran.
On va aller voir ça. Alors c'est pas encore le magnifique champ de fleurs violettes là ce que je vois, c'est surtout des mauvaises herbes en pagaille.
Vous passez un coup de tondeuse, un coup de débroussaillage.
Didier, vous êtes donc agriculteur à la retraite, c'est vous qui avez relancé le safran dans le Quercy il y a une vingtaine d'années. Qu'est-ce qu'on va faire ce matin?
Je vais couper l'herbe et puis après je vais travailler le sol sur 3 cm d'épaisseur.
Eh ben c'est parti, on y va, là je suis en train de fouiller entre les tiges pour apercevoir des pousses de safran.
Alors, tout ça c'est planté en rangée.
Je bêche la terre pour préparer la semence car tout l'été Didier doit planter des nouveaux bulbes et aussi récupérer les anciens qui sont encore là sous le sol.
Là les bulbes ils sont sous terre, ils sont à 10-15 cm de profondeur.
Voilà, préparer la récolte qui a lieu au mois d'octobre. Ça se passe comment, Didier, la récolte?
Le soir, on va au lit. Il n'y a pas une fleur sur la safranière. Le lendemain matin, on peut en avoir 10, 20, 100, 1000, 10 000, 15 000. Ça m'est arrivé, voilà. Ça dépend de la surface de la safranière aussi.
Alors, c'est ce qui est bien avec le safran. Pas besoin d'une terre fertile, juste un bon fumier à épandre. Les surfaces sont toutes petites.
Quand on voit un champ de safran, c'est magnifique, c'est magique. Voilà.
Didier, par exemple, a seulement 2000 mètres carrés.
Bon, et alors après cette séance jardinage, Antoine, comment se prépare-t-on à la grande récolte? Comment on écoule tous ces précieux brins rouges?
Bon, ok, pour le moment, j'avoue, c'est plutôt calme. Mais j'ai promis de revenir à l'automne pour la récolte.
Récolte à la main.
Et là, c'est une autre paire de manches.
Dès lors qu'on attaque des matins avec 15 000 fleurs, 10-15 000 fleurs, ça commence à être un peu plus chaud.
Ensuite vient l'étape de l'émondage.
Donc ça, ça se fait à table.
C'est lorsqu'on retire les précieux filaments.
Ben moi, personnellement, je mets à table les anciens, les grands-mères. Ils le feront à leur vitesse.
Et oui, impossible de recruter des saisonniers dans le secteur. La récolte est trop aléatoire. Une fois les petits brins rouges retirés, il faut les faire sécher dans des déshydrateurs. Ce sont des fours dédiés. Et enfin, les mettre dans des petits pots.
Santé.
Ouh. Ah oui, en effet, ouais, c'est odorant. Hein.
C'est très puissant.
Pour ensuite les vendre.
Et vous voyez une petite étiquette, médaille d'or. Ben ouais. J'ai été primé deux années, 2016-2019, médaillé d'or à Paris au Salon de l'Agriculture, concours général agricole.
Belle performance pour un autodidacte. Didier, vous êtes un pionnier aujourd'hui. Il existe des formations au niveau du département, mais est-ce que ça vaut le coup de se lancer ?
Faire du safran, si on n'est pas passionné, c'est pas la peine non plus. Personne ne peut vivre de ça, uniquement de ça.
Bon alors j'ai contacté d'autres safraniers qui arrivent à en vivre. Il faut pour cela transformer le safran, faire des confitures, des sirops, des chutneys. Mais vous Didier, ça vous rapporte combien ?
En termes de chiffres...
Jamais facile de parler argent.
Ça peut arriver à faire un chiffre d'affaires de 5, 6, 7, 8 000 euros. Voilà, selon la surface. Comme je me répète, si c'est pour faire de la qualité, ça va très bien. Sinon, on ne peut pas.
Un safran de qualité qui a un prix. Ici, c'est 25 euros les 800 grammes. Au final, une récolte peut rapporter une petite dizaine de milliers d'euros.
Et vous n'allez pas échapper à la question traditionnelle, Antoine. Prêt à sauter le pas, à cultiver votre champ de safran ?
Comme le dit si bien Didier, le safran...
C'est violet, c'est... Oui, c'est... Il n'y a pas de mots, c'est magique.
C'est la beauté de la fleur à l'état pur, mais j'ai pu m'en rendre compte, c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de patience. Et je suis pas sûr d'avoir la main assez verte pour cet or rouge.
Vous avez le sens de la formule en tout cas. Merci beaucoup Antoine Cavallerou. RTL en immersion, c'est à réécouter sur notre appli RTL et le site rtl.fr. Dans un instant, vous avez la parole au 3210.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.